Et si en ces temps pollués, caniculaires et coronavirés, mot inventé, et si les espaces verts devenaient vitaux dans les villes, l'un des jardiniers les plus capés du pays et dans Agriculture Média ce matin, bon je ne vais pas la faire 15 fois non plus, pour une belle coulée verte, bonjour Alain Baraton.
Bonjour.
Jardinier, quel beau métier, on dit ça aujourd'hui, est-ce que c'est ce que vous vouliez faire enfant, devenir jardinier?
Moi non, je rêvais d'être photographe, mais je dois avouer qu'avec le Covid-19 et tout l'entrain pour les jardins, je suis très fier et très heureux d'avoir finalement choisi ce métier, un métier profitable à tous.
Oui, vous sentez que voilà, le regard qu'on porte sur les jardiniers, je ne sais pas si c'est si récent que ça, mais a pris de la valeur ces derniers temps.
Oui, alors sous Voltaire, il était le plus noble des métiers, ouais. Et puis depuis, je dois reconnaître que mon métier a souvent été un petit peu décrié. On m'appelait, lorsque j'ai débuté dans la profession, dans ma famille, toujours très aimable à mon endroit, la bouse, pour vous montrer.
Ah, oh, c'est pas vrai.
J'ai des frères parfois taquins, voyez-vous. Et il est vrai que le jardinier ou la jardinière n'a pas toujours eu la place qu'elle méritait vraiment. Et aujourd'hui, enfin, eh bien, on s'est rendu compte que le jardinier faisait le métier absolument indispensable. Regardez quand les jardins de Paris étaient fermés en plein confinement. Eh bien, les gens voulaient des espaces verts. Promenez-vous le soir dans Paris, l'esplanade des Invalides. C'est un pique-nique géant permanent. Non. Eh bien, cela me réconforte. On est loin de la pelouse interdite, on est loin de ce jardin qui est un peu, vous savez, dans les films de Jacques Tati, souvenez-vous, Mon Oncle, où on voit un jardin ultra moderne, interdiction de monter sur la pelouse. Non, les jardins aujourd'hui appartiennent aux citoyens. On voit à quel point ils sont indispensables à l'équilibre, au bonheur et pour mieux lutter contre le confinement.
Il y a suffisamment d'espace vert pour vous à Paris?
Eh bien, avant d'écrire un livre, je pensais qu'il n'y en avait que très peu. Et quand je me suis attelé à la rédaction sur les 500 jardins et parcs parisiens, oui, il y en a beaucoup, beaucoup plus que je ne pensais. Il n'y en a jamais suffisamment, c'est vrai, mais il y en a toutefois beaucoup.
On va parler de votre livre dans un second temps, mais d'abord, je voulais évidemment parler de votre activité majeure, puisque vous êtes jardinier en chef au château de Versailles. Donc oui. Ça, c'est, j'imagine, très prestigieux. C'est un honneur aussi. Est-ce que c'est une pression?
C'est une pression de ne jamais décevoir. C'est une pression pour former des équipes qui soient heureuses d'être à Versailles, de transmettre, j'ai 63 ans, la retraite approche, de transmettre la passion de mon métier pour que Versailles continue de faire rêver. Mais il est vrai que cette année, Versailles, par exemple, présente sur les parterres du Grand Trianon un jardin africain. Je n'en ai pas eu l'idée. Ce sont mes collaborateurs et collaboratrices qui ont eu l'idée de mettre à l'honneur l'Afrique. Le jardin est époustouflant et en cette période de canicule, eh bien jamais un parterre n'aurait été aussi heureux que celui de Trianon. Il ne manque pas d'eau, le soleil est parfait pile poil, il est magnifique.
Voilà, ça c'est de la réclame. Rebonjour Martin, quand j'ai le zic, faites-vous là.
Bonjour. Bah, je ne vais pas vous parler du Trianon, mais des jardins de Versailles juste à côté.
Oui, il se trouve que vous y étiez ce week-end.
Je suis allé samedi.
Et vous nous racontez.
Et je vous raconte. Bonjour Alain Baraton.
Bonjour.
Alors ce samedi, le roi soleil porte magnifiquement son nom, 44 degrés dès la grille royale. Alors pour trouver un peu de fraîcheur, on se faufile vers le parterre d'eau. On en veut un peu quand même à la torpeur de l'été d'avoir asséché la pelouse un tout petit peu jaunie et d'avoir meurtri les haies symétriques si chères à le nôtre. Alors on s'éloigne un peu pour le parterre de l'orangerie. Ici, devant le Grand Canal, Versailles a fait du sud de l'Europe son hôte. On s'émerveille, on s'émeut presque face à cette symétrie et on se rêve en courtisan qui, en ce XVIIe siècle, se doit de dénicher pour son bon roi le plus beau des palmiers, à moins que Louis le XIV ne préfère voir dans sa nouvelle collection, juste en face de nous, un nouveau citronnier ou un laurier, peut-être pourriez-vous nous aider. Mais nous voilà déjà attirés par le charme d'une musique à quelques mètres. Et déjà, le crépuscule étreint le château, on part se délasser, on cherche le dauphin et la reine dans les bosquets. Mon préféré, le bosquet de la Colonnade. Devant nous, l'enlèvement de Proserpine par Pluton, 32 mètres de haut, dans un merveilleux écrin de verdure fait de treillages et de palissades. Et en ce soir de grandes eaux à Versailles, de la fumée enveloppe le lieu, t'as un bijou précieux qui refuse de se dévoiler totalement. Entre les colonnes, un faisceau vert. Parce que oui, cet été, Versailles se laisse aller à des incartades de jeux et lumières modernes dans ce qui est le dernier refuge de l'Ancien Régime. Une ineptie anachronique et un patrimoine dénaturé pour les grincheux, mais l'histoire sublimée et revisitée pour tous les autres. On entend au loin une autre partition. Ça y est, le jardin du roi dévoile sa splendeur, un jardin à l'anglaise pour le plus grand souverain de France, et ses arbres rares, séculaires, Il défie le temps et les révolutions. Il y a Laura aussi, sur l'écorce d'un arbre. Elle a osé graver son nom, celui de son amoureux, et a orné le tout d'un petit cœur. On imagine le courroux du roi quand il verra tel affront de cette roturière. Mais nul temps de s'inquiéter pour sa pénitence. On doit déjà lever les yeux au ciel, c'est l'heure du feu d'artifice. Les jardins sont magnifiés. On pense à la devise du monarque absolu. Nec pluribus impar, à nul autre pareil.
Martin Cangelosi, sous les yeux d'Alain Baraton.
Magnifique, et merci d'avoir employé ce terme de grincheux. Parce qu'il est vrai que ce qui est moderne à Versailles déplaît beaucoup, mais croyez-vous vraiment que Versailles aurait survécu à 400 ans d'existence s'il n'y avait pas eu de temps en temps quelques Jeff Koons ou effets modernes, et bien justement pour continuer à faire que notre regard se porte sur ce jardin que vous avez décrit avec subtilité. Vous y étiez, il n'y a aucun doute, vous ne mentez pas.
Non, il y était, je peux vous le dire. Est-ce que la fréquentation est compliquée sous Covid ?
Oui, elle l'est toujours parce qu'il faut prendre des mesures sérieuses. Il n'y a plus ou très peu de visiteurs venant de l'étranger, beaucoup moins de visiteurs venant de province. Mais je suis surpris de voir le nombre de Franciliens qui vient se promener à Versailles. Hier soir, il était 18-19 heures, je me suis promené autour du Grand Canal. Les pelouses étaient transformées en plages. Vous n'avez pas idée du nombre de Franciliens qui viennent profiter de nos pelouses jaunies, c'est vrai, ce qui prouve bien que nous ne gaspillons pas l'eau, et bien qui profitaient de ces pelouses pour prendre un petit peu le soleil, et bien ça me fait grandement plaisir. Vous savez, que Pascal, quand j'ai débuté à Versailles, les pelouses étaient interdites, on devait les regarder, on ne pouvait pas marcher dessus. Aujourd'hui, on s'allonge, on s'amuse, parfois même on fait quelques galipettes, c'est Versailles et ça me fait plaisir.
Alain Baraton, on va déambuler dans vos jardins de Paris, certains sont secrets, c'est tout de suite, ça va nous faire du frais. Le jardinier de Versailles, Alain Baraton, est dans Culture Média ce matin. Je suis pas sûre, je lis ça partout, le jardinier de Versailles, ça vous va ou...
Bon, c'est pas mal, je trouve.
Ouais.
Pour le gamin qui avait quelques soucis à l'école et pour qui avait un papa qui disait sans cesse « Que va-t-on faire de toi ?» dont je suis relativement fier. Le jardinier à Versailles, c'est une joie, c'est un honneur. Et puis, je trouve que c'est un terme très agréable.
Non, je parlais du raccourci, simplement, parce que vous n'êtes pas juste le jardinier de Versailles.
Si. Je suis un jardinier parmi d'autres. Le terme de chef n'a aucune importance. J'ai connu l'époque où les vieux jardiniers m'appelaient chef. Ce temps, malheureusement, est révolu.
vous avez, paraît-il, une passion pour les arbres.
Les vieux arbres, oui.
Les vieux arbres, vous leur parlez ?
Je leur parle régulièrement et j'essaie de les défendre. Saviez-vous, Pascal Clark, qu'aujourd'hui en France, les arbres ne sont pas protégés par la loi ? Saviez-vous qu'un arbre millénaire, voire qui est même âgé de 2000 ans, n'est pas protégé par la loi ?
Ça veut dire qu'il peut se faire...
Ça veut dire que si un maire décide demain de le couper, il en a parfaitement le droit. Alors, on va vous dire qu'il y a des textes locaux qui... Non, c'est la loi qui compte en France et c'est véritablement scandaleux. Saviez-vous que les arbres les plus vieux vivants sur la planète sont âgés d'environ 9000 ans ? J'ai bien dit 9000 ans. Ne croyez-vous pas que ces arbres méritent au même titre que les pyramides d'être protégés ? Alors, en France, on continue de les maltraiter, on continue parfois de les couper pour des sottises. Alors, quand on a la chance, comme à Paris d'ailleurs, d'avoir de vieux arbres qui, eux, sont mis en valeur, il faut continuer à espérer que cela dure longtemps. Mais nos vieux arbres, c'était mon petit coup de gueule de la matinée, ne sont
bien,
pas protégés et je le regrette encore.
Comment quelqu'un comme vous, Alain Baraton, n'a pas le pouvoir de... Ce serait vraiment un beau combat. Vous le menez, mais enfin, faut aller au bout maintenant.
Parce qu'on vous répond systématiquement qu'il y a d'autres priorités, comme quoi...
Toujours, il y a d'autres priorités, oui.
Parce qu'on vous répond que l'arbre est un être vivant et qu'à ce titre, il est appelé à mourir et donc on peut difficilement classer ce qui est mortel. Mais comme je vous le disais, l'arbre le plus vieux de France est un olivier. Il vit sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Il est âgé de 2000 ans. Alors je vous pose une question, non pas pour vous piéger bien évidemment, connaissez-vous, vous, un monument en France qui soit âgé de plus de 2000 ans ?
Stéphane Bern ?
Peut-être. Et encore.
Non, je me sens.
On est taquine.
Oui, je taquine, c'est pas méchant.
Voilà. Donc, il faut les protéger.
Oui, il faut les protéger. On va partir pour les mots verts, hein, puisque c'est bien beau d'aimer les jardins. Vous savez aussi trouver les mots, Alain Baraton. Dans votre livre Mes jardins de Paris, paru chez Grasset, vous décrivez et parfois révélez plus d'une centaine de parcs, squares, promenades ou jardins de Paris. Parce que, écrivez-vous, les jardins sont des secrets. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à les éventer, alors, ces secrets ? Parce que vous savez ce que c'est un secret ? On veut toujours le garder pour soi.
Oui, mais quand le secret est un secret qui fait sourire et qui ne met pas en cause ni la sécurité du lieu, ni même la sécurité d'une personne, personne, il n'y a pas de honte à le trahir. J'ai hésité, votre question est pertinente, j'ai hésité par exemple à parler du marronnier du square Anne Frank. Simplement, ce marronnier est né du marron, de l'arbre que voyait la petite depuis ses fenêtres de la maison d'Amsterdam. Et je me suis dit, si je décris l'emplacement exact de cet arbre, il y a bien certainement encore quelques individus capables de venir maltraiter le végétal.
Et de fait ?
Non, j'en ai parlé parce que justement, il faut passer outre. On ne va quand même pas se laisser dicter par quelques nazillons. Donc, cet arbre a été planté pour rendre hommage à Anne Frank et signaler que la barbarie nazie peut demain revenir. Donc, je parle de cet arbre, bien évidemment. Et je décris là le petit jardin d'Anne Frank, qui est l'un des plus beaux de Paris.
Oui, alors c'est ça qui est agréable dans votre livre, c'est que vous ne vous contentez pas de décrire ces lieux verts par les arbres, les jardins qu'il contient, mais par les noms aussi. Qui leur rendent hommage à ces personnages historiques. Et on en a pioché quelques-uns. Lui, pour commencer.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre.
Le jardin Serge Gainsbourg se trouve avenue de la Porte des Lilas, hein, oui. 19e arrondissement de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à l'est, au nord-est. Il aurait pu être sous le soleil exactement, le square.
Mais il est sous le soleil de fête. Ouais, et quand on écoute les mots prononcés par Jane Birkin et par la fille de Serge Gainsbourg le jour de l'inauguration, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de soleil. Mais j'ai voulu absolument parler de ces jardins, parce que le nom des chanteurs qui nous ont fait rêver est malheureusement souvent appelé à disparaître. J'ai été frappé, je parle de la promenade du jardin Tino Rossi.
Ouais.
Lorsque j'étais petit, ma grand-mère me disait que Tino Rossi était de son temps une star incroyable. Et j'ai découvert...
Chanteur corse, pour ceux qui ne connaissent pas, les jeunes.
Vous voyez ce que vous venez de dire. Cela ne fait que qu'étayer mes propos.
Mais c'est pas vrai ?
Eh bien si, simplement, c'est l'un des plus...
Non,
si.
Peur.
Non, vous venez simplement de rappeler qui était Tino Rossi,
bah ouais,
ce qui était
obligé,
inconcevable,
ouais.
Il y a 30 ou 40 ans, de dire qui était le créateur de Petit Papa Noël. Cet homme est l'un des 10 premiers vendeurs de disques au monde. Et aujourd'hui, son nom est petit à petit en train de s'évaporer. Un jardin rappelle qui il était. Eh bien, je pense...
Oui, mais un boulevard, c'est pareil.
Oui.
Ou une rue.
Oui, tout à fait. Mais le jardin, c'est un lieu fait de plaisir. Il y a trop de militaires qui ont encore des rues qui portent leur nom. L'avantage du jardin, c'est qu'il poétise. Et quand on va dans le jardin Serge Gainsbourg, on est tenté. Il y a toujours à l'entrée le petit historique, la plaque. Qui était Serge Gainsbourg ? Qu'a-t-il écrit ? Comme d'autres jardins, mais je ne dis rien. Peut-être avez-vous prévu d'autres chanteurs.
Allez savoir. J'espère en tout cas que le jardin Serge Gainsbourg est bien arrosé.
Il est bien arrosé et il est magnifique.
Ouais, on va continuer à grappiller quelques lieux comme ça, quelques lieux verts dans Paris. Nous sommes avec Alain Baraton ce matin. Belle matinée à vous.
Parc.
Jardin, parc, coulée verte. Nous prenons l'air ce matin et c'est pas du luxe, en compagnie du jardinier en chef. Allez, je l'ai dit, Alain Baraton. Est-ce qu'un jardin se doit de ressembler à celui ou celle dont il porte le nom ?
Pas nécessairement, mais il doit au moins y avoir un petit détail qui rappelle la personnalité que l'on a souhaité honorer.
Alors on était tout à l'heure, avant la pub, au nord-est de la capitale, et l'espace d'à peine 2 minutes, on a traversé Paris, ce qui même au mois d'août est un exploit, en moins de 2 minutes, on a changé de quartier, non seulement on est passé de l'est à l'ouest de la capitale, mais aussi des quartiers populaires aux quartiers bourgeois. Vous voyez me venir ou pas ?
Non, j'attends.
Vous suivez ? Alors, nous sommes dans le 16e arrondissement de Paris et il y a un square, me semble-t-il, qui est coincé entre le périphérique et un boulevard à fort trafic dans le 16e arrondissement.
Oui.
Vous le voyez ?
Il y en a plusieurs.
Alors, c'est le square des poètes.
Oui, magnifique.
Et magnifique.
Magnifique, un peu bruyant.
Voilà, du coup, on écoute cette voix.
Où le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine.
Guillaume Apollinaire, même si j'ai l'impression que ce n'est pas cette citation qui est inscrite concernant Guillaume Apollinaire dans le Square des Poètes.
Je ne suis pas. Je pense que vous avez raison, ouais. Mais il est vrai que c'est étonnant ce jardin qui s'appelle Square des Poètes parce qu'il est parsemé d'une multitude de petites plaques avec des poèmes. C'est un jardin que l'on parcourt en lisant. Il y a quelques bustes, bien évidemment, mais il y a surtout toutes ces petites textes, ces extraits, ces citations qui sont merveilleuses et qui nous rappellent combien nous avons la chance, en France et même dans le monde, d'avoir des femmes et des hommes capables de manier les mots. Et j'aime le Square des Poètes parce que pour accéder dans ce lieu, il faut traverser des routes très fréquentées, il y a du bruit, mais une fois qu'on est à l'intérieur, on est vraiment bercé par ces citations. Et j'ai un souvenir d'autant plus ému lorsque je suis allé dans ce jardin, c'est qu'un je notais tout à la main, et un jardinier sans me connaître s'est spontanément proposé de me donner la liste des cartels et tous les textes. Et j'ai trouvé extraordinaire que cet homme, qui ne me connaissait pas, ait eu envie de me faire partager la passion de son jardin.
C'est-à-dire qu'on se cultive dans tous les sens du terme.
Tout
là-bas.
À fait.
Mais c'est pas un peu... choquant, c'est pas le mot, mais enfin un peu curieux que le Square des Poètes soit dans les beaux quartiers. Les poètes, ils n'étaient pas faits pour ça, quand même.
Oui, mais heureusement. Non, mais c'est peut-être l'occasion de rappeler aux bourgeois, comme vous le dites, que de temps en temps, des gens qui, eux, ne l'étaient pas, étaient capables de manier le verbe, peut-être même parfois mieux qu'eux.
On avance, Alain Baratin ?
Allons-y, je vous suis.
Alors, on reste plutôt à l'ouest, dans un parc portant le nom d'un grand rêveur.
I have a dream that one day... This nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Martin Luther King, évidemment. Nous sommes dans le quartier Clichy-Batignolles, pour ceux qui connaissent Paris, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à l'ouest, un peu plus haut que ce dont on parlait à l'instant. Là, il y a beaucoup à dire.
Déjà, c'est un très grand jardin, un jardin qui a été rebaptisé du nom de cet homme d'exception, comme quoi, de temps en temps, il est bon de donner des noms de personnalités au jardin. Martin Luther King est un homme qui a perdu la vie pour que l'on puisse vivre avec beaucoup plus d'humanité et de fraternité. Martin Luther King a dit des choses merveilleuses. On connaît tous cette fameuse phrase « Yes, we can » ou « I can ». Mais c'est lui qui
disait... Ça, c'est Barack Obama, ça.
Oui, oui, tout à fait.
Ouais. I have a dream.
Merci. C'est très bien. Et j'essaie de me rappeler en disant ça, l'autre phrase de Martin Luther King, quand il dit que si une loi ne pourra jamais empêcher un homme de l'aimer, au moins une loi pourra l'interdire de le lyncher. J'aime beaucoup cette phrase. Et ce jardin, qui est un modèle d'écologie, avec une mare qui a été reconstituée, avec des canards, quand on regarde bien, il y a même des canards sauvages qui viennent se rafraîchir. Ce jardin est la preuve que l'on est capable aujourd'hui d'entretenir un jardin aux portes de Paris, écologique, qui permette aux enfants du quartier de venir se reposer en pensant au grand homme qu'était Martin Luther King.
Vous qui êtes un jardinier capé, Alain Baratin, oui. Est-ce que vous avez le pouvoir de suggérer des noms pour les villes et Paris?
Non, je n'ai pas ce pouvoir-là.
Non.
Je le regrette, mais je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait une seule autorité capable de suggérer un nom. J'aime bien l'idée d'un mouvement populaire. De temps en temps, il y a des noms qui apparaissent, mais j'aime bien l'idée aussi du recul. On a trop eu tendance, je pense, à une époque, de donner des noms un petit peu dans l'émotion.
Dans la précipitation, ouais.
Je ne veux pas froisser les anciens combattants, mais je trouve, par exemple, qu'il y a beaucoup trop de noms de rues en France qui portent le nom de militaires. Et je suis un petit peu... Alors, certes, il y a eu la guerre, certes, il y a eu l'occupation, mais j'aurais aimé de temps en temps que les noms soient davantage pris avec discernement et d'humanité. Et dans les jardins, justement, ce sont des commissions qui se réunissent, qui décident, ça prend du temps, mais généralement le choix est judicieux.
Vous n'êtes pas pour déboulonner les statues, vous n'êtes pas pour débaptiser les jardins, quand même, une fois que, voilà, il y a ce nom-là, on le garde, ou alors on pourrait un petit peu rectifier la carte.
Des jardins ont déjà changé d'appellation suite à la guerre. Un journaliste dont je ne me rappelle plus le nom a perdu le titre d'un jardin car ses propos antisémites étaient réapparus aux yeux de tous. Non, j'aime bien justement qu'on prenne le temps et que seules les personnes irréprochables à tous les sens du terme soient honorées d'un jardin et qu'il y ait davantage d'ailleurs de femmes. On manque encore de femmes.
On manque de femmes partout. Hein.
Oui, peut-être, mais surtout dans le nom des jardins. Vous n'avez pas parlé du Square Séverine.
Ah bah non, il y en a plein. Il y a 500 lieux dans votre livre.
Oui, mais Séverine, une grande journaliste, ce sont des femmes qui vivaient au 19e siècle, qui ont eu des courages mais de dingue.
Où est-ce ?
Il est dans le 20e arrondissement. Eh bien, le Square Séverine rend hommage justement à toutes ces femmes qui ont été capables de manipuler la liberté d'expression avec panache, courage, et qui, au péril de leur vie, ont été capables de faire en sorte que les femmes, déjà, puissent davantage s'insérer dans la société. Je suis admiratif de ces grandes dames.
Est-ce que vous avez comme ambition cachée Alain Baratin, d'avoir un parc ou un jardin qui, un jour, le plus tard possible, porte votre nom?
Bah écoutez, maintenant que vous... je n'y avais jamais pensé, mais je dois avouer, ce ne serait pas pour me déplaire.
Ah ouais.
Avouez qu'un petit jardin versaillais, qui porterait un tout petit, modeste jardin à Alain Baraton, ça aurait quand même beaucoup d'allure. J'avais parlé avec Catherine Pégard de l'éventualité d'un buste dans les jardins.
Le château de Versailles. Hein.
Oui, tout à fait, la présidente de Versailles, que mon buste un jour soit inauguré dans les jardins de Versailles.
Pas exagérer non plus.
Oui, c'est bien ce qu'elle m'a fait comprendre aussi.
Votre jardin préféré en ce moment à Paris, je sais que ça dépend des moments, donc...
Non, je n'ai pas de jardin préféré.
Non.
Non, parce que le jardin préféré, vous l'avez dit vous-même, dépend du moment, si vous y allez seul ou accompagné. Je dois avouer quand même que j'ai une petite tendresse particulière pour le jardin du Luxembourg. Parce que ce jardin est magnifique, il y a des zones d'ombre, des endroits de fraîcheur. Il a une âme, ce jardin. Et quand on est assis près de la fontaine de Catherine de Médicis, quand on est sur un vieux banc, quand on regarde ce vieux catalpa du côté de l'orangerie, voilà, on le regarde et on se dit comment cet arbre fait-il vivre. Si, par contre, il y a quand même cet arbre merveilleux, ce jardin, le Square Viviani, où vit l'arbre le plus vieux de Paris. C'est un acacia.
C'est où, dans le 5e, c'est ça ?
Face, je crois que c'est le premier, je ne garantis rien.
Face à Notre-Dame ?
Face à Notre-Dame, séparé de Notre-Dame par la Seine. C'est le Square Viviani, près de l'église Saint-Vincent, Saint-Julien des Pauvres. Et ce petit square qui
a... C'est le plus ancien.
Il a été planté par Jean Robin. Robin, jardinier d'Henri IV, qui a donné son nom au robinier. C'est le doyen de tous les arbres de Paris.
Donc il y a quoi, 400 ans ?
400 ans. Il a été planté aux alentours de à peu près 1600.
Il va bien ?
Alors, il est un petit peu soutenu par du béton, mais il va pas trop mal.
Et
mais...
lui n'est pas menacé, pour le coup.
Ah non, il est protégé, chouchouté, dorloté.
Mmh. On va continuer à évoquer des espaces verts, parce que ça fait du bien, ça nous fait de la fraîcheur. À suivre dans Culture Média, l'indispensable de Thibault Lambert, qui a pour habitude de se balader sur Facebook. C'est comme ça, c'est un autre territoire.